Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir un week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Quand vous pensez au Nord, vous vous dites sûrement que tout le monde parle ch'ti. Qu'il y a des mines, des briques rouges partout, qu'on ne mange que des frites au maroilles et que surtout ici, tout est plat. Mais moi, je vous emmène en Flandre. Dans une région située au nord de l'île bien différente. On y trouve des maisons colorées, des gens à l'accent flamand et des monts. Plusieurs collines qui offrent des panoramas spectaculaires sur la région. Et à la fin de ce voyage, vous saurez pourquoi un chansonnier a choisi le nom d'un village de Flandre comme pseudonyme. Je m'appelle Emmanuel Bordeaux, je suis animateur à Ici Nord. Je ne suis pas né ici, mais j'ai été complètement conquis par la Flandre. Parce que quand je m'y balade, que ce soit à vélo ou à pied, rien n'est monotone. Ici, le paysage ondule, se transforme, surprend. J'adore cette succession de monts alignés, que l'on surnomme la Cordillère des Flandres. Leur histoire, leur paysage, leur tradition. Bienvenue dans Partir, dans le Nord, sur les sommets des monts de Flandre. Notre point de départ, c'est le mont Cassel. Nous sommes ici à 45 minutes en voiture au nord de l'île, juste à côté de la Belgique, au sommet de ce qu'on appelle l'Everest des Flandres, 176 mètres d'altitude. Ouais, c'est peut-être pas très haut, mais ici, c'est le roi des monts. Tout en haut de ce village de 2000 habitants, élu village préféré des Français il y a quelques années, le spectacle est grandiose. Une vue à 360 degrés, un panorama unique qui change au fil des heures et des saisons. Autour de nous, c'est une carte postale flamande. Le bocage essayé et ses petits chemins sinueux, les grandes plaines verdoyantes qui s'étendent à perte de vue, les villages typiques et les grandes fermes carrées. Et avec une bonne paire de jumelles, on peut voir jusqu'à la mer du Nord. Si vous venez à Cassel en voiture, votre premier réflexe sera sûrement de vous garer sur la Grand Place. Mais attendez, j'ai un meilleur plan pour vous. Plutôt que de chercher une place en plein centre, je vous conseille de monter directement jusqu'à la place du Général Vandamme, au pied du Belvédère. Il y a souvent de la place, et en plus, vous serez déjà à un point de vue magnifique. De là, laissez votre voiture et partez à pied. Suivez les petites ruelles pavées qui serpentent le long du jardin public. Ici, on marche sur l'histoire. Il reste encore des vestiges de l'ancien château. Ça date de l'époque gallo-romaine. Puis doucement, on plonge dans l'âme de Cassel quand on emprunte les ruelles étroites aux pavés gris. Et au détour d'un passage, on arrive dans le cœur historique de la ville. On est maintenant sur la grande place de Cassel. Entièrement pavée, cette place est entourée de bâtiments au cachet typiquement flamand. Avec leurs pignons à gradins et leurs toits à forte pente, on pourrait se croire à Amsterdam ou à Bruges. L'imposant hôtel de ville avec sa façade en briques capte aussi tout de suite le regard. Ici, il y a aussi plusieurs estaminets, des cafés-restaurants typiques de Flandre. Mais je vous en parlerai un peu plus tard de ça. Alors l'autre édifice incontournable ici, c'est le musée de Flandre. Il est installé dans l'un des plus beaux bâtiments flamands de la région. À l'intérieur, on peut découvrir une riche collection d'art flamand. Ça va de la Renaissance à l'époque contemporaine. On trouve du Bosch, du Rubens, des chefs-d'œuvre qui témoignent du génie des peintres flamands. Ah, au fait, j'ai un autre conseil. Si vous passez par Cassel, ne repartez pas les mains vides. Ici, le terroir, c'est une affaire sérieuse et surtout gourmande. D'abord, les fromages. Vous connaissez sûrement la mimolette. Eh bien, sachez qu'elle est française et non hollandaise. C'est une fierté locale, tout comme les nombreuses bières artisanales brassées dans la région. Et pour les becs sucrés, je vous recommande de goûter aux gaufres flamandes. Ces petites merveilles toutes dorées, là, sont fourrées au beurre et à la vergeoise. C'est un sucre de betterave au délicieux goût caramélisé. Pour en trouver, c'est facile, il suffit de flâner autour de la Grand Place. Ici, pas de piège à touristes, que du bon, du vrai, du local. Alors pour moi, la meilleure période pour visiter Cassel, c'est le printemps. Mais le mieux sans doute, c'est de venir le lundi de Pâques, parce que ce jour-là, la ville célèbre son carnaval d'été. C'est vraiment la plus grande fête populaire de Cassel. Dès 6h du matin, tambours et grosses caisses résonnent dans les rues et les géants en bois et papier mâché de Cassel, reuse papa et reuse maman, comme on dit en flamand, se réveillent. C'est la seule fois de l'année d'ailleurs que vous pourrez voir ces géants de 6 mètres de haut déambuler et danser ensemble dans les rues. Tant que vous êtes encore à Cassel, je vous invite à vous rendre au Jardin des Récollets. C'est situé à quelques centaines de mètres de la Grand Place. C'est un lieu de référence en matière de jardin flamand. Et il faut vraiment venir de mi-mars à mi-juillet. Le jardin se métamorphose. Il y a des centaines de milliers de bulbes qui fleurissent. Persenneige et narcisse en début de saison, et puis après c'est une explosion de tulipes et d'espèces plus rares. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré, le Mont des Cats. C'est à 20 minutes en voiture d'ici. Allez, on y va. Ici, on est donc au Mont des Cats. Alors c'est pas le sommet le plus élevé de la région, mais la vue là aussi est à couper le souffle. On a sous les yeux un véritable tableau vivant qui s'étend à perte de vue. Le Outland, ou Pays aux Bois. Et par endroits, on pourrait vraiment se croire dans le Massif Central. Mais sa particularité, c'est que tout en haut trône un majestueux monastère où vit encore une vingtaine de moines. Ils sont là pour veiller sur ce paysage unique. Mon conseil pour découvrir le Mont des Cats petit à petit, c'est de partir de la commune de Bertaine. C'est au pied du mont, et là on vous propose une randonnée facile et agréable. Faut compter environ 1h15 pour une boucle de 4,5 km. Et c'est vraiment parfait pour profiter du paysage sans se presser. Et puis petit bonus, les chiens sont les bienvenus, c'est rare. Et à certains endroits, on peut même les laisser courir librement. Ah au fait, il existe aussi plusieurs théories sur l'origine du nom du Mont des Cats. Par exemple, certains ch'tis pensent que le mot « cat » signifie tout simplement « chat ». Eh bien, en réalité, il s'agit d'une ancienne peuplade germanique, les Cats, qui vivaient dans la région au 5e siècle, et c'est bien eux qui ont donné leur nom à ce mont. Alors moi, j'aime cet endroit déjà pour la beauté sauvage des paysages. Ici, vraiment, il y a la nature qui vous enveloppe, et on est dans une ambiance presque mystique. Il y a quelque chose dans l'air, une énergie particulière qui pousse à la réflexion. Quand j'y vais, moi je laisse mon portable de côté, sauf quand je suis tenté évidemment de prendre une belle photo. Emmanuel de Quillac est architecte paysagiste. Il est propriétaire du Jardin des Récollets à Cassel, mais il connaît aussi très bien le Mont des Cats.
Ce que j'aime beaucoup ici au Mont des Cats, je vous conseille, c'est tout le printemps. Le printemps, c'est l'explosion des fleurs. Vous avez toutes les anémones blanches au tout début du printemps. Les coucous, bien sûr, dans les bois. Et après, le bois devient bleu, 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 entièrement bleu de jacinthe. Ah, au Mont des Cats, il y a des petites surprises. Tout d'un coup, dans les bois, vous voyez une chapelle toute en pierre des monts, chapelle des loques. Et on dépose bien sûr des vêtements en signe de protection. On vient aussi en procession, notamment le Vendredi Saint.
Une fois au sommet du Mont des Cats, on peut observer de plus près le monastère dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est un imposant édifice en briques rouges au style typique du 19e siècle. Il a été récemment restauré. À l'intérieur, des moines vivent fidèles à la tradition cistercienne. Et ils fabriquent plusieurs sortes de fromages depuis 1849. Comme le Mont des Cats, qui est inspiré de la célèbre recette de l'abbaye du Port du Salut. Alors la boutique, c'est le seul endroit qui se visite. Le monastère n'est pas ouvert au public, sauf pour ceux qui participent aux retraites spirituelles proposées ici. Ah, au fait, chaque troisième dimanche d'octobre, pour la Saint-Hubert, on célèbre ici la Passion du Cheval. Plus de 200 cavaliers en grande tenue gravissent le mont, accompagnés de dizaines de sonneurs de trompe. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup de venir à ce moment-là. À 5 minutes en voiture du monastère, où on est au pied du Mont des Cats, on trouve deux villages qui valent aussi le détour. Ils sont juste à côté de la frontière belge. Il y a Bertaine, mais moi j'ai un petit faible pour Godwarsveld. Dans ce village, on trouve des habitations flamandes avec des jolies façades et des volets en bois de couleur pimpante. C'est là qu'il y a le musée de la vie frontalière. On y découvre les ruses des fraudeurs. Cachettes dans les vêtements, double fond dans les charrettes ou valises truquées. C'est vraiment une visite incontournable pour mieux comprendre l'histoire et les réalités du commerce clandestin à la frontière. C'est aussi l'occasion de voir l'un des derniers cafés boucherie. C'est une boucherie, mais qui sert aussi des cafés et des bières.
Alors c'est amusant, il y a très très longtemps j'étais jeune, hein, et alors on parlait des estaminets, mais qu'est-ce que c'est des estaminets? On en parlait beaucoup en Belgique, hein, c'était dans les années 80. En Flandre française on n'en parlait pas ou très peu, et un jour on m'a amené à Godzarsvel, et je rentre à un endroit hors du temps, et c'était le Bloorzhof. C'est là que j'ai découvert vraiment la gastronomie flamande, notamment le potchevlech, le hotspot, le waterzooi.
Je vous conseille vraiment de vous arrêter dans l'une de ces auberges typiques de Flandre. L'estaminet, c'est tout d'abord une ambiance. Il y a du houblon suspendu au plafond, des objets anciens qui racontent la Flandre, et une atmosphère vraiment chaleureuse. Si vous deviez choisir un plat, moi j'ai un petit fait pour la carbonade flamande. C'est un bœuf mijoté longuement dans la bière, accompagné de ses frites cuites à la graisse de bœuf pour encore plus de saveur.
Alors, petite anecdote, il y a un personnage célèbre ici, il s'appelait Francis Albert Victor Delbar, vous dites, oh oui, on ne le connaît pas.
Vous vous rappelez, je vous avais dit au début de l'épisode qu'un chanteur de notre région avait pris le nom de cette commune du Mont des Cats. Eh bien, c'est Raoul de Godwarsvel.
Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Je chante pas très bien, désolé.
Dans le reste de la France, on le connaît surtout parce qu'il a repris une chanson typique du Nord, le Petit Quinquin. Mais ici, c'est une véritable institution. Et s'il a pris le nom de ce village, c'est parce qu'il a commencé à répéter ses chansons dans la salle des fêtes. Avant que j'oublie, si vous cherchez à vous loger en Flandre, j'ai une super adresse à vous proposer. Elle est située sur la route de la Bille. Ça s'appelle le Mont des Cats Perchés. Et c'est vraiment un lieu insolite. Ici, on dort dans une cabane perchée à 3 mètres du sol, avec une vue panoramique sur les monts de Flandre. En plus, les tarifs sont vraiment très raisonnables, et avec un supplément, on peut même profiter d'un jacuzzi sur la terrasse de la cabane. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va grimper au Mont Noir, c'est à 10 minutes d'ici en voiture, et on va tester l'attraction la plus insolite de Flandre.
En 1958, les Autrichiens sont arrivés, on va dire, ici sur le Mont Rouge et le Mont Noir. D'où l'idée de construire un télésiège qui relie donc le Mont Noir au Mont Rouge. Premièrement, donc, pour le tourisme, mais aussi également pour la vue magnifique qu'on peut voir entre les deux monts.
On est maintenant au Mont Noir, à Saint-Jean-Scapelle, sur la frontière belge. Quand on arrive ici, on tombe sur une grande rue commerçante avec d'un côté les boutiques françaises et de l'autre les boutiques belges. Mais si on avance un petit peu, au bout de la rue, on arrive au pied d'un télésiège, le télésiège Cordoba. Il est exploité depuis près de 70 ans et il n'a pas changé depuis son installation. Tous les week-ends et tous les jours en été, il relie le Mont Noir au Mont Rouge en Belgique. Alors c'est un parcours qui fait à peu près 900 mètres, à environ 10 mètres de hauteur. On monte par deux sur un siège, sans garde-corps et repose-pied, il y a juste une petite chaîne. Mais je vous rassure, le voyage de 10 minutes se fait en douceur, donc très peu de risque de tomber. Ce qui est super, c'est qu'on survole des vignobles avant d'entrer dans une zone boisée où se trouve un magnifique moulin. Pour 6 euros, on peut faire un aller-retour sans descente. Alors moi, j'aime bien le télésiège du Mont Noir, parce qu'une fois qu'on a franchi le petit stress du départ, eh bien on passe vraiment un moment précieux de détente et d'évasion. Quand on observe le décor qui défile sous nos pieds, eh bien on a parfois vraiment l'illusion de voler.
Le côté droite, vous voyez la France. S'il fait bien clair, les terrils de Lens et tout ça, vous voyez. Donc si on regarde en bas, en fait, on voit les vignes de Entre-deux-Monts.
Avant de quitter le Mont Noir, j'ai un dernier conseil à vous donner. Allez faire un tour au parc départemental du Mont. C'est un domaine de 50 hectares qui regorge de paysages pittoresques avec une faune et une flore sauvage exceptionnelles. En plus, du parc, on peut voir la villa de l'écrivaine Marguerite Yourcenar. Elle y a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse et elle évoque souvent ce lieu dans ses écrits. C'est une maison au style néo-normand très jolie qui est aujourd'hui une résidence d'écrivains. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Ici.
Elle m'a parlé de sa vie. chanter ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Tout l'or du monde, le nouveau titre de Jérémy Frérot.
Un coup de cœur ici.
Je bomberai pas le torse pour être plus fort. Je crierai pas pour que l'on soit d'accord. Je vais pas soulever les trophées, jouer au cador. J'irai pas chercher la gloire ni la médaille d'or. Je m'en fous d'être le chef, je m'en fous de faire la prêche. Je m'en fous d'être plus rapide, je m'en fous d'être plus solide. Je m'en fous d'être le premier. Je veux être celui sur qui on peut compter. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire. Contre un monde sans vainqueur. C'est comme la rivière qui serpente au gré des vallées. Je suis liquide, avec mes fils on fait des ricochets. Sur l'Atlantique, en équipe, on sèche les cours de la vie. Et les remous du cœur, on se paye un tour gratuit. Tant pis pour les chiffres, tant pis pour la frime. Tant pis pour la fame, tant pis pour le fric. Tant pis pour la légende, tant pis pour ce que vont penser les gens. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire. Contre un monde sans vainqueur. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus solide. Quand le jour s'endort dans mon lit, j'ai peur de mourir. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus rapide. Je m'en fous d'être le premier. Je veux juste être celui sur qui tu peux compter. Tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde. Contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur.
Votre radio locale, toujours avec vous.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Marseille, c'est la deuxième ville de France, mais la première côté soleil. Vous avez en tête son accent chantant, son club de foot évidemment, et peut-être même l'aïoli qu'on mange sur le Vieux-Port. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir une autre facette de Marseille, celle des petites rues bouillonnantes et des grandes artères bien propres, loin des clichés, celle de ce qu'on appelle ici les quartiers-villages, parce que c'est là où l'histoire et le tempérament de la ville se ressentent le plus. On va parler urbanisme, de la façon dont les bâtiments ont été construits, de leur architecture unique, des artères qui font l'âme de cette ville. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi ici, certaines ruelles se prennent pour des boulevards. Je n'exagère pas. Je m'appelle Cédric Frémy, je suis animateur à Ici Provence. Elle peut déstabiliser cette ville de Marseille. Elle est impressionnante, différente. Moi, j'ai appris à l'aimer en prenant le temps de vraiment marcher dans ses rues. Et j'adore le fait qu'elle arrive à me surprendre à chaque fois, à chaque carrefour, quand je m'y attends le moins. Bienvenue dans Partir. Marseille, des petites rues loin des clichés. Notre point de départ, c'est un passage obligé pour tous les visiteurs de Marseille. C'est Notre-Dame de la Garde, qu'on surnomme ici la Bonne Mère. Ce qui m'étonne à chaque fois quand j'entre à l'intérieur de la basilique, ce sont ces mosaïques colorées sur les voûtes, le dôme et tout le transept. C'est le style néo-byzantin très en vogue fin 19e. Et puis il y a tous ces ex-voto marins, ces bateaux suspendus au plafond. Je trouve ça vraiment émouvant. Parce que cette basilique, elle est là pour veiller sur les marins, et finalement sur nous tous, sur tous les Marseillais. Mon conseil pour la visiter, c'est d'arriver ici avant 10-11 heures du matin, quand les touristes des paquebots de croisière n'ont pas encore débarqué. C'est vraiment l'idéal si l'on veut être tranquille et prendre le temps à l'intérieur. Mais aussi de faire de jolies photos sur le parvis au pied de la célèbre statue dorée de la Vierge tenant l'enfant Jésus. Et puis le matin, la lumière est particulièrement belle. Elle donne des couleurs orangées à cette basilique blanche qui n'a pas toujours été si impressionnante. Quand je dis ça, je veux dire qu'avant la fin du 19e siècle et sa reconstruction, elle était très différente. Pas de clocher carré, pas de coupole, pas de statue dorée. Ici, on est à 150 mètres de hauteur. C'est le point culminant du centre-ville. On a une vue d'ensemble sur tout Marseille. D'ici, on peut voir les îles du Frioul, le château d'If, le Vieux-Port. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est d'abord le blanc et l'orange. Le blanc des façades d'immeubles et l'orange des tuiles. En fait, vu d'en haut, la ville ressemble à un puzzle fait de petites et de grandes rues. Et même si dans la vie, j'aime d'habitude plutôt ce qui est droit, net, bien rangé, eh bien il me plaît beaucoup aussi, ce joyeux bazar. C'est une ville qui s'est construite en agglomérant des villages, mais sans les dévorer. Parce que le plus souvent, ces villages, qui sont devenus des quartiers, 111 au total, ont gardé leur identité. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Avant que j'oublie, je vous recommande de tout faire à pied pour ce week-end à Marseille. Parce que circuler et se stationner en voiture, c'est plus que sportif. Et les transports en commun sont plus ou moins adaptés. En fait, l'idéal, c'est d'opter pour vos baskets les plus confortables. Mais bon, pour aller à Notre-Dame-de-la-Garde, je reconnais que pour le coup, il y a un bus très pratique qui part du MUSEM, le célèbre musée national consacré à la Méditerranée. Il passe par le Vieux-Port et monte directement jusqu'à la Bonne Mère. Si vous avez peur des rues en pente et des nombreux escaliers, je vous le conseille, c'est le bus 60. Mais comme moi, je suis un grand sportif, les marches, ça ne m'effraie pas, bien au contraire. Je vous ai promis de vous faire découvrir ma balade préférée, celle qui n'est pas dans tous les guides touristiques. Pour y arriver, il suffit de marcher 30 minutes depuis la Bonne Mère, en descente, ce n'est pas trop fatigant, pour rejoindre le cœur de ville. On est donc dans le centre-ville de Marseille, plus précisément sur le cours Julien. C'est le lieu que les Marseillais adorent. Un quartier coloré, je pense notamment à ses escaliers peints qui changent régulièrement d'apparence, et très animé avec ses terrasses, ses fontaines, ses aires de jeux pour enfants et ses marchés paysans. Tiens, tant que j'y pense, quand je viens dans le centre de Marseille, je choisis toujours un jour de beau temps. C'est pas difficile, cette ville c'est la plus ensoleillée de France métropolitaine. Mais surtout j'évite au maximum les jours de Mistral, parce que quand le vent souffle, les déchets volent de partout, il y en a parfois beaucoup sur la route et les trottoirs. Bref, ça peut vite rendre fou. Ce que j'aime bien avec le cours Jus, c'est que c'est le cœur artistique et bouillonnant du centre de Marseille. C'est aussi un repère de créateurs de mode, de bouquinistes, de cavistes, de clubs et de restaurants. Et puis il y a une âme contestataire ici, c'est un quartier militant. On le saisit si on tend l'oreille pour écouter les conversations dans les cafés ou si on regarde les murs. Ici, quasi 100% des murs sont peints avec beaucoup de décorations, des tags, des fresques. Tant que vous êtes ici, poussez la porte de Merguez Frippe. Non, ce n'est pas une friterie, mais une friperie qu'aiment fréquenter les gens du quartier. Ici, on trouve des vêtements pas chers du tout, neufs ou en seconde main. Cette boutique est réputée dans tout Marseille.
Pour moi, les rues de Marseille, ça représente la vie marseillaise. Ici, on vit dans la rue. On est sur la Méditerranée, les gens se rencontrent.
La voix que vous entendez, c'est celle d'Olivier Duvalet. Olivier, il est né ici, il a grandi ici et il est urbaniste. Ses boulevards, ses cours, il connaît par cœur. Il est incollable sur l'architecture de certaines artères.
Et c'est bien sûr aussi toute l'histoire de la ville qui est ressentie dans les rues quand on regarde les façades, quand on creuse sous un trottoir, quand on parle aux gens qui travaillent là. Il y a toute la vie marseillaise qui se développe dans les rues et c'est ça qui est fascinant. À Marseille, on n'hésite pas à se parler et on a besoin de se rencontrer, on a besoin de faire une communauté et c'est dans la rue que ça se passe.
On s'éloigne maintenant du cours Julien pour traverser la place Jean Jaurès. C'est la plus grande de la ville. Tout le monde à Marseille l'appelle La Plaine. Et on rejoint le boulevard Chave, du nom de deux frères promoteurs qui ont fait naître ce quartier au 19e siècle, celui du Cama, ou du Camas, on peut dire les deux. J'adore ce changement d'ambiance. En même pas 5 minutes, on quitte des rues très animées, recouvertes de tags, pour se retrouver le long de ce boulevard très propre, très arboré, très calme. Et ce qui me frappe ici, c'est l'unité architecturale des immeubles. Tout est parfaitement bien aligné, parce qu'ils ont tous été construits sous le Second Empire, à l'époque de Napoléon III. À cette période, le nombre d'habitants de Marseille explose, notamment grâce à l'industrie, aux ports et aux colonies françaises en Afrique. Et il faut trouver un standard d'architecture pour héberger tout le monde, et notamment les classes moyennes. Dans ce quartier résidentiel, on construit alors des immeubles assez proches du style haussmannien qu'on trouve à Paris. Mais on les appelle ici les trois fenêtres, tout simplement parce que les façades se composent de trois fenêtres sur chaque étage. Ça fait comme un rythme très régulier. Quand vous viendrez et que vous lèverez la tête, vous ne pourrez pas les rater. Et à l'intérieur, les appartements sont tous construits à l'identique. Ils sont haut de plafond, on trouve du parquet au sol, des tomettes dans les pièces d'eau. Et ce style, il plaît bien aux jeunes cadres avec enfants. C'était vrai à l'époque comme ça l'est aujourd'hui. Tant que j'y pense, ma recommandation pour faire une photo sympa de ces immeubles typiquement marseillais, c'est d'aller juste à côté, rue Térus. D'ici, il y a une perspective parfaite, bien alignée, bien rangée sur la rue, avec de chaque côté nos trois fenêtres marseillais. Et au fond, l'église Saint-Michel, rénovée en 2017. Et justement, dans la rue de l'église Saint-Michel, au numéro 35, Olivier Duvalet connaît un passage secret. Si l'on passe discrètement le porche, on arrive dans une très vaste cour privée pour découvrir l'arrière des trois fenêtres marseillais.
Dans cette cour, on trouve une spécificité tout à fait marseillaise aussi. Quand l'eau potable est arrivée, on a rajouté des toilettes et on les a mises sur les balcons. Alors maintenant, les toilettes ont été réintégrées aux appartements, évidemment, et là, c'est un point d'eau ou c'est un endroit pour une machine à laver. Et alors ici, on a une autre spécificité marseillaise. Il y a une petite maison au milieu de la cour intérieure qui était les chambres de bonne à l'époque. C'est l'endroit le plus humide, le moins ensoleillé et où tout le monde autour peut surveiller.
Seulement de marche d'ici, l'autre quartier dans lequel je veux vous emmener, c'est celui des 5 avenues. À nouveau, en un claquement de doigts, on change de style et d'ambiance, avec des immeubles art déco et art nouveau, façonnés entre 1910 et 1930, comme le long du boulevard Clémenceau ou place Sébastopol. Ici, les bâtiments sont très chics, mais aussi très modernes par rapport aux trois fenêtres, avec des caves en béton, des ascenseurs, de la ferronnerie, des portes en verre. Dans ces années-là, au début du XXe siècle, tout est fait pour attirer la bourgeoisie dans le centre-ville, et notamment dans ce quartier, un ancien village absorbé par la ville. Cet ancien village, on l'appelait à l'époque les Quatre Chemins, alors qu'il en comptait cinq. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, le quartier s'appelle les 5 avenues, mais il en compte 6. La toponymie marseillaise, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est aussi le bazar.
Mais c'est une histoire typiquement marseillaise. Au début des années 1900, il y a une nouvelle taxe, un nouvel impôt local qui est mis en place et qui est basé sur le type de voirie sur lequel on habite. Dans les petites rues, dans les impasses, les impôts locaux sont très élevés. Les gens sont considérés comme propriétaires terriens, souvent propriétaires d'une petite maison, et c'est vraiment le cas. Et sur les boulevards qu'on va tracer à ce moment-là pour faire grandir la ville, qui vont attirer les premiers locataires de l'époque, qui vont attirer plutôt des classes moyennes, voire des classes modestes, eh bien les impôts sont plutôt très très bas. Et alors du coup, les gens dans les petites rues n'étaient pas du tout d'accord pour payer plus d'impôts que les autres. Et très rapidement, on a réussi à donner un petit billet à la mairie pour faire changer la nomenclature, pour passer de rue à boulevard ou de impasse à avenue, ce genre de choses-là.
Elle est là, la clé de l'énigme dont je vous parlais en début d'épisode. En fait, il y a tout un réseau un peu invisible d'impasses ou de rues qui sont des avenues ou des boulevards. Et autant vous dire que ça complique pas mal la circulation ici. Déjà que la ville fait partie des plus embouteillées de France. En moyenne, les Marseillais perdent 7 jours par an dans les bouchons. Avec des plans comme ça, ça n'arrange rien. Mais moi, je trouve que ça lui donne aussi du charme, un côté atypique. Marseille, elle est vraiment unique. Avant de quitter les 5 avenues, si vous êtes gourmand comme moi, arrêtez-vous à la pâtisserie Bricoleur de Douceur. À Marseille, ils ont plusieurs boutiques, mais celle dont je vous parle est dans le quartier qu'on vient de visiter, boulevard Philippon, littéralement au carrefour des 5 avenues. Moi, à chaque fois que j'y rentre, je ne sais jamais quoi choisir, tellement tout fait envie. Je vous recommande le cookie Dingler, chocolat noisette, et l'incontournable Paris-Brest, qui logiquement s'appelle ici Marseille-Brest. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On reste dans la rue, mais on va observer les murs d'un peu plus près. Je vous propose de partir à la chasse aux ovnis. Ou plutôt, aux Space Invaders.
On est à la place du chien saucisse à la plaine, et là on voit un Space Invader qui représente une bouteille d'un apéritif anisé bien connu à Marseille.
On est maintenant de retour près du cours Julien. station de métro Notre-Dame-du-Mont. Ici, on trouve de toutes petites œuvres de street art faites en mosaïque inspirées d'un jeu vidéo des années 80 qu'on appelle donc des Space Invaders. L'artiste Invader en a installé partout dans le monde et à Marseille, on en trouve une centaine. C'est l'une des plus grandes concentrations de France. Mon conseil, c'est de vous lancer dans une chasse aux Invaders comme vous feriez une chasse au trésor. Moi, j'aime bien flâner et lever les yeux pour les trouver, mais sur Internet, il existe des cartes avec l'emplacement exact des Invaders. Elles sont faites par les vrais chasseurs, les passionnés, et c'est plus simple comme ça de tomber dessus.
Alors moi, ce qui me plaît dans cette chasse, c'est l'accessibilité à l'art de façon gratuite, les motifs que ça représente, et grâce à une application qui s'appelle Flash Invader, on va chercher ces petites mosaïques, on les flash, on a des points, on les collectionne, c'est comme des cartes Panini.
Mon Space Invader préféré à Marseille, il est boulevard Chave au numéro 72 exactement. Il représente le chanteur et acteur Fernandel, l'éternel Don Camillo. Mais il y a aussi, à deux pas du Courjus, Courlioto, celui représentant Zinedine Zidane, qui est super bien. À Marseille, on dit plutôt « tarpeng bien », c'est l'expression locale. Avant de quitter la ville, j'ai un dernier conseil pour vous. N'oubliez pas de ramener un bloc de savon de Marseille, le vrai, pas du made in China. Il y a des règles, des ingrédients et un processus très précis pour concevoir le véritable savon de Marseille. On peut en trouver dans des boutiques, notamment dans la plus ancienne quincaillerie de France, la Maison Empereur, à 5 minutes à pied du cours Julien et du Vieux-Port. C'est une institution. Quand vous passerez dans la rue des Récollets, vous ne pourrez pas la louper avec son énorme enseigne, ses bibelots par centaines, ses jouets, ou sa vaisselle suspendue au plafond. Ça donne à ce lieu des airs de caverne d'Ali Baba. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Ici.
Ici.
ici, les chroniques, les conseils, les bons plans, à tout moment.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Le Mans, c'est la capitale de la Sarthe, dans le Grand Ouest de la France, à 55 minutes de Paris en TGV. Le Mans, c'est bien sûr les rillettes et la course automobile. Ça, je peux vous dire que c'est une incontournable réalité locale. Les Sarthois sont les plus gros consommateurs de rillettes en France, de loin, et les dernières 24 heures du Mans ont fédéré plus de 300 000 spectateurs. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir la cité Plantagenêt, le cœur historique du Mans. Figurez-vous que c'est un lieu de tournage exceptionnel pour le cinéma. Et à la fin de cet épisode, vous allez découvrir le pouvoir surnaturel d'un menhir. Je m'appelle Fabien Aubric, je suis animateur à Ici Mène. J'adore la cité Plantagenêt qui me rappelle mon arrivée au Mans, en famille, il y a 15 ans. Ce n'était pas facile pour mes enfants de quitter leur vie d'avant. Mais un petit peu comme par magie ici dans la vieille ville, un petit appartement qui ressemblait à une cabane et des rues comme on en voit seulement dans les films de KPDP ont su les faire sourire. Merci la cité Plantagenêt. Bienvenue dans Partir, Le Mans, terre de cinéma. Notre point de départ, c'est la place du Cardinal Grant. Elle est érigée sur un promontoire. C'est un peu comme si elle dominait la ville depuis la cité médiévale. Si vous venez en voiture, c'est facile. Il y a 3 parkings gratuits. Rue Nicolas Denisot, rue de la Galère et quai Louis Blanc où les camping-cars sont aussi les bienvenus. Mais évidemment, parce que la gratuité est rare en centre-ville, il faut arriver tôt pour avoir une place. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a le tramway. De la gare du Mans, vous êtes à 4 arrêts de la cathédrale. Ça va très vite. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous balader à pied. Mais moi, ce que je préfère, c'est me déplacer à vélo. C'est top pour profiter de l'architecture de la ville. Et vous trouverez de solides arceaux pour attacher votre deux roues. Place du Jet d'eau, en contrebas de la cathédrale. Cette place de la cathédrale, c'est un lieu incontournable ici au Mans. Et figurez-vous qu'elle a aussi inspiré un grand cinéaste. C'est à cet endroit qu'a été tournée la scène la plus connue du film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau en 1990. C'est sur cette place que Gérard Depardieu, dans le rôle de Cyrano, déclame la fameuse tirade du nez. Et c'est vraiment ce film qui va donner un coup de projecteur sur la ville du Mans. Et oui, la cité Plantagenêt est un lieu privilégié pour le tournage de films d'époque parce que cette cité médiévale a été largement préservée de la modernité. Mais n'allons pas trop vite. On avance encore un peu pour rentrer dans la cathédrale Saint-Julien. Ce qui apparaît en premier lieu quand on pénètre ici, c'est que l'édifice baigne de lumière. La pierre est blanche, les rayons du soleil magnifient les vitraux. Vitraux qui figurent parmi les plus beaux ensembles européens avec ceux des cathédrales de Chartres et Bourges. Visiter la cité Plantagenêt, c'est se mettre en mouvement. Je vous invite à privilégier une tenue et des chaussures confortables. Déjà parce que vous allez braver un peu de dénivelé. De la place du Jet d'eau au parvis de la cathédrale, vous devrez monter un escalier de 48 marches, je les ai comptées. Ayez aussi en tête que les rues de la vieille ville sont constituées pour l'immense majorité de pavés. Assurez vos appuis. Ici, les chambres d'hôtes ne manquent pas. Mon coup de cœur, c'est le logis du Saint-Flasseau. Cet hébergement, situé à quelques pas de la cathédrale, offre une déco qui ravit les amateurs d'ambiance chaleureuse. Vieilles pierres, beaux meubles, couleurs, parquets, poutres, avec aussi une vue agréable sur la vieille ville grâce aux 5 fenêtres de l'appartement. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré. Venez, on va partir s'aventurer dans les ruelles de la cité Plantagenêt pour découvrir les secrets des films tournés ici. C'est à 5 minutes de la cathédrale. On se trouve maintenant au pied de la cité Plantagenêt. On est du côté de la rivière, la Sarthe. La vieille ville du Mans, c'est plus de 2000 ans d'histoire. D'ailleurs, on aperçoit la muraille gallo-romaine. Haute de 10 mètres, elle a permis aux Romains d'affirmer leur puissance et le prestige de la cité et elle est très bien conservée. Elle enserre la cité et offre de superbes couleurs, rouge, rose. Venez la voir au coucher du soleil, c'est magnifique. J'en prends plein les yeux à chaque fois. Je vous conseille de venir ici l'été. Il y a du monde, mais rassurez-vous, on est loin des excès du surtourisme. Vous pourrez profiter des terrasses. En plus, l'été, c'est la saison de la nuit des chimères. Quand le soleil se couche, les pavés et façades des monuments du Vieux-Mans s'animent de projections. Vous pouvez découvrir ces lumières enchantées, gratuitement, chaque soir de juillet à début septembre. Autre originalité de l'été, des comédiens proposent des visites théâtralisées de la cathédrale du Mans. Pour y assister, je vous recommande de réserver sur le site de l'Office de tourisme. Comptez une dizaine d'euros par personne. Remontons dans la vieille ville. Il y a un endroit que j'adore, c'est la maison suspendue. Elle date du XVIe siècle. C'est une curieuse habitation, toute petite, bâtie en pan de bois. On se demande vraiment comment elle tient au-dessus de la rue Saint-Pavin de la Cité. Regardez, à la fenêtre, les propriétaires ont déposé un ours en pluche. C'est un clin d'œil à une photo de Robert Doisneau prise en 1962. On y voit une petite fille et son ours sous « La maison qui volait ». C'est le titre que Doisneau a donné au cliché en noir et blanc. Pour visiter la cité Plantagenêt et comprendre pourquoi c'est un lieu privilégié par les cinéastes, on a la chance d'être avec Annie Hamelin. Annie est comédienne, amoureuse de la ville du Mans. Elle a travaillé sur de nombreux tournages ici.
Bon, moi, je trouve que c'est la plus belle partie de la ville. Évidemment, je suis née ici, donc peut-être j'ai un attachement particulier avec ce vieux Mans, qu'on appelait comme ça il y a longtemps. C'est un endroit alors paisible aussi, parce que c'est vrai qu'ici, on n'entend vraiment pas les bruits de la ville. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que les cinéastes, ils aiment cet endroit. On est tout près du centre commercial, du cœur de ville et de l'agitation de la ville. Et puis, il y a quelque chose de paisible. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont déambulé dans ces rues? Il y a sûrement une âme dans cet endroit, je pense.
On avance un peu et on arrive Square du Bois. Ici, on surplombe la rivière, la Sarthe, dans un carré de verdure. Vous voyez des bancs, une boîte à livres, servez-vous, et de grands magnolias qui nous apportent un peu de fraîcheur dès le printemps. C'est la même qu'ont été tournées des scènes du film Le Bossu, sorti en 1997. Encore un film de KPDP, et oui, ici on n'est pas loin de Paris, c'est donc pratique. En plus, la cité Plantagenêt offre 20 hectares de quartiers anciens parfaitement préservés. On a l'impression que le temps s'est figé. C'est un décor parfait pour Le Bossu, l'histoire de la vengeance d'un chevalier. Daniel Auteuil, Fabrice Lucchini, Marie Gillin, Vincent Pérez tournent à le roman.
Ils ont choisi en fait de reconstituer l'hôtel de Nevers, donc qui se trouvait à Paris sous la Régence. Et pour ça, ils ont construit en fait dans des ateliers en région parisienne un décor de façade en fait avec des murs en polystyrène. Et il a fallu démonter donc en région parisienne ce décor et le transporter jusqu'au Mans là sur ce square du bois. Les gens en fait, il y avait des barrières ici et les badauds, ils venaient en fait le dimanche admirer en fait le décor. C'était assez drôle, il y avait beaucoup de monde. C'était assez marrant de voir ça.
La balade, ça donne soif. Et pour se désaltérer, on s'arrête chez Chachéchir. Charlotte vous accueille dans son salon de thé au pied de la cathédrale avec une large gamme de thés bio de grande qualité. Moi, je suis plutôt café et je vous conseille de prendre l'un de ces cafés à extraction lente. Ne me demandez pas les subtilités de cette technique. Ce que je peux vous dire, c'est que les arômes sont parfaits. En plus, Chachéchir, c'est aussi une librairie où vous trouvez un large choix de romans de science-fiction et fantasy. On peut profiter d'une bonne boisson tout en bouquinant, c'est très agréable. On sort du salon de thé pour arriver rue de la Reine Bérengère. Cette rue, c'est l'un des axes principaux de la cité. Vous y voyez les maisons les plus cossues de la vieille ville. On raconte même que c'est dans l'une de ces maisons qu'est morte la reine Bérengère, l'épouse de Richard Cœur de Lion, fils d'Henri II Plantagenêt, né au Mans, second fondateur de la dynastie royale qui donne son nom à la vieille ville du Mans. Cette rue de la reine Bérengère, c'est encore un lieu de tournage privilégié. Des scènes de L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, de Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale ont été tournées ici.
C'est une ruelle très étroite, avec une belle profondeur de champ qu'on peut filmer d'un côté ou de l'autre. Et ça permet, là, par exemple, de faire courir des chevaux, d'avoir le son des vrais pavés. Parce que c'est vrai que les chevaux ont du mal à courir sur des faux pavés. Ça permet de faire passer des carrosses aussi. Et évidemment, on a aussi le son. Donc ça, c'est intéressant. Après cette rue, on peut aussi constater qu'il y a donc des lanternes. Et on ne voit, en effet, quand on regarde bien, on ne voit pas de fil, ni du réseau électrique, ni du réseau téléphonique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les cinéastes, comme De Broca, par exemple, ont été intéressés pour venir tourner ici.
Je vous avais dit au début de l'épisode que le menhir du Mans avait un pouvoir surnaturel. On repasse devant la cathédrale. Si vous êtes attentif, vous allez apercevoir qu'il y a une immense pierre enchâssée dans un angle de la cathédrale, véritablement collée au mur. Ce menhir, c'est le plus vieux témoin de l'histoire du Mans. Il est là depuis 5000 ans. Et figurez-vous qu'on lui prête un pouvoir. Il est le symbole de la fertilité. Pour être sûr d'avoir un beau bébé dans 9 mois, glissez votre doigt dans un trou au beau milieu du menhir, ce trou qu'on appelle le nombril du Mans.
Donc il y a beaucoup de gens qui s'amusent à le toucher, c'est un peu un petit rituel de passage. Voilà, mais c'est rigolo.
Avant de partir de la cité Plantagenêt, vous devez passer chez Juliette. Une commerçante du quartier, elle est là depuis 40 ans. C'est la boutique qui défend l'artisanat et les créateurs. Si vous désirez un souvenir, je vous recommande l'un de ces personnages d'une dizaine de centimètres, plein de couleurs, tout en rondeur. Ce sont des poupées décoratives, un peu déjantées. Et comme moi c'est sûr, vous allez craquer pour ces créations de Juliette en plastiroc, une pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Ça mettra un peu de folie, on en a besoin, dans votre intérieur. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va à l'abbaye royale de Lépau. C'est à 10 minutes en voiture de la cité Plantagenêt, le tramway vous y conduit rapidement aussi.
C'est la reine Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, qui acquiert ses terres et qui fonde l'abbaye en 1230. C'est une abbaye cistercienne fondée par une reine d'Angleterre et qui est basée aux portes du Mans.
Caroline Ménérol, chargée de communication. Ici, on est à l'abbaye de Lépau, à Ivray-l'Évêque. L'édifice comprend plusieurs bâtiments ouverts à la visite. L'entrée adulte est à 7 euros. On commence par marcher vers le cloître, soutenu par d'imposantes colonnes sculptées. L'église abbatiale présente de magnifiques couleurs ocre. Et on y voit le gisant de la reine Bérengère. C'est magique, c'est beau, c'est reposant. Ce n'est donc pas étonnant que l'abbaye ait aussi servi de lieu de tournage pour des films. Mais j'y reviendrai. J'adore l'abbaye de Lépau parce que c'est aussi un lieu de nature. Il y a un grand parc arboré, très bien entretenu, idéal pour les grandes balades. Ce parc abrite un jardin permacole. On vous y apprend les principes de la permaculture, une manière de cultiver en s'inspirant de la nature. Il est même possible, à l'issue de ces ateliers, de déguster les produits réalisés avec les fruits et légumes du jardin. Pensez à réserver, c'est 5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants. Le cinéaste Pascal Thomas a choisi la cité Plantagenêt, où nous étions, mais aussi l'abbaye de Lépau pour tourner son film « Le voyage en pyjama » sorti en 2023. Une comédie romantique sur les déboires amoureux d'un prof de lettres.
Dans une région absolument délicieuse, charmante, avec des gens accueillants, de très très beaux décors. Mais pour beaucoup des Français, le Mans, ça se réduit à deux choses. Je commence parce que je préfère les rillettes et ensuite les courses automobiles. Et là, j'ai découvert des gens charmants, accueillants, de très belles, le centre du Mans magnifique. On a pu tourner tous nos intérieurs et extérieurs de maisons, une librairie. Une pure merveille. Ça nous a donné de beaux décors qu'on a filmés simplement dans leur beauté, sans chercher à faire des acrobaties, bien sûr, pour simplement montrer l'endroit heureux dans lequel on s'était trouvé.
Bien sympa aussi, un tour par la boutique 100% Made in Sarthe de l'abbaye de Lépau, où vous trouvez des livres, des souvenirs, miel, confiture issues du jardin permacole et bien sûr les fameuses rillettes du Mans. Tant pis pour le summer body. En quittant l'édifice, je vous invite vivement à découvrir l'Arche de la Nature. C'est juste derrière l'abbaye. J'adorais venir ici quand mes enfants étaient petits pour qu'ils galopent un peu. J'avais l'appel le soir et découvre les animaux de la ferme. Des animaux parfois utilisés lors des tournages de films. Retenez que Le Mans est aussi une ville d'art et d'histoire. Mais ça, vous le verrez quand vous viendrez.
Ici.
ICI.
Vous écoutez Ici.
Ici.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Trop plein de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Hey, tel est le nom du film. Trappling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Salut, c'est Gaëtan Roussel. En écoutant son mon dernier single, Je reste là.
Un coup de cœur ici.
Le regard dans le vide, parfois le nez en l'air. C'est le hasard qui me guide depuis hier. Je ne sais plus qui décide, la peur ou la colère. Et l'envie en moi réside de laisser faire. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. J'ai devant moi l'horizon. J'avance sans avoir une idée de direction où je m'égare. On est parfois de l'argile, juste un grain de poussière. Tout est, c'est vrai, si fragile, éphémère. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Et tu emportes pour la dernière fois. C'est bien pire dans ton cœur qui bat. Oui, tu emportes, c'est vrai, cette fois notre avenir et moi je reste là. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, je reste là. Et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois.